Radio Cité Genève.
Genève internationale. Épiphanie Monfo.
Bonjour à toutes et tous. Dans cet autre numéro de ce magazine, nous nous trouvons au Palais des Nations avec Jessie Carmel Petitfrère, ancienne ministre haïtienne du commerce et de l'industrie, mais également de la diaspora haïtienne. Dans un contexte de crise éducative et de violence urbaine croissante en Haïti, elle nous apporte une perspective sur les liens entre l'économie, l'industrie et le développement social. En tant qu'ancienne ministre, elle a été témoin des défis complexes auxquels le pays est confronté et elle nous éclairera sur l'importance de renforcer les infrastructures économiques pour soutenir l'éducation et la stabilité. Bonjour Jessie Carmel Petitfrère.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancienne ministre du commerce et de l'industrie d'Haïti, consultante pour plusieurs organisations internationales, entre autres. Nous sortons de cet événement parallèle ici au Palais des Nations sur la crise que traverse le système éducatif haïtien. C'était organisé par l'OIEC en marge de la 56e session du Conseil des droits de l'homme. Vous pouvez revenir sur les trois axes principaux de vos propos tout à l'heure ?
Et tout d'abord, je dirais bonjour aux auditeurs et pour les Haïtiens qui écoutent, je leur dirais que j'ai été aussi ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc j'ai une pensée pour eux et aussi pour leurs familles. Pour revenir à cette conférence sur l'éducation en Haïti, et comme vous aviez remarqué, et dans toutes les conférences auxquelles je participe, je fais ressortir d'abord les aspects positifs d'Haïti, parce que c'est un pays qui a énormément de potentialités. Et ce n'est pas normal que Haïti puisse vivre cette situation. On se dit les gangs ou les bandits, ils sont aussi haïtiens. Et comme je l'ai expliqué, si le système a 80% de surâgés qui ont abandonné l'école, cela veut dire que le système devrait pouvoir travailler de manière à réduire les inégalités sociales, rompre le cycle de la pauvreté, afin que des surâgés ne deviennent pas bandits, et qu'on puisse déjà aller à la source et éliminer cette situation. Donc la crise, en effet, a été, je pourrais dire, difficile. Ceci pour nous tous. Moi, je vis là-bas. Mais je dois dire qu'au-delà de la crise, il y a des aspects positifs sur lesquels il faut compter. Par exemple, j'ai parlé de l'école hybride, l'école à distance, ce qui n'avait pas existé auparavant. Certainement, il faut garantir l'accès à l'Internet et permettre à chacun de pouvoir utiliser ces instruments-là. Mais par contre, aujourd'hui, l'école à distance et hybride a permis de rattraper ce retard abyssal, alors que d'autres pays l'avaient fait depuis très longtemps. Nous avons pu rattraper ce retard abyssal de l'école haïtienne en ce qui concerne ou en matière de culture technologique. Donc ça, c'est un point vraiment positif et important. Et ensuite, l'autre point important sur lequel je voudrais mettre l'emphase, c'est le fait que les étudiants ont pu s'organiser en groupe. Donc, je veux dire cette coopération scolaire qui a permis aux enseignants, aux parents et aux élèves de se mettre ensemble, c'est encore pour moi un point extraordinaire et important dans la mesure où ces relations entre eux ont été renforcées et c'est un exercice pour la cohésion sociale dont nous avons tant besoin. Parce que s'il y avait cette cohésion sociale, je ne pense pas qu'on aurait des bidonvilles et qui pourraient s'attaquer aux citoyens ou à la classe moyenne, ou même aux entreprises ou aux industries.
Il y a de l'espoir avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place. Est-ce que l'école haïtienne pourra retrouver ses lettres de noblesse ?
Déjà, je pourrais dire que c'est un exercice fédérateur. Les Haïtiens se sont mis ensemble et notre devise dit que l'union fait la force. Et notre force, c'est de vraiment nous unir. Et je pense que l'équipe présidentielle qui est là, le conseil présidentiel, nous espérons, évidemment, qu'ils représentent, étant donné qu'ils représentent les partis politiques, qu'ils feront bloc avec le gouvernement actuel du Premier ministre et avec aussi les ministres, de manière à pouvoir s'unir et donner une réponse à cette crise. Parce que si nous arrivons à résoudre ce problème, Haïti retrouvera sa place dans le monde. Et moi, je le dis que ce pays a tellement de potentialités, non seulement au niveau de son capital humain, même si ce capital humain, ou du moins les jeunes, se sont immigrés vers l'extérieur. Moi, j'ai été ministre de la diaspora. C'est pour vous dire que Haïti peut compter sur sa diaspora. Sa diaspora est une force. Elle a besoin de sa diaspora pour des investissements, pour des parcs industriels, pour des écoles, pour des entreprises. Et ce ne sont pas des investisseurs directs étrangers uniquement qui viendront reconstruire ce pays. C'est la force haïtienne qui viendra reconstruire Haïti. Donc, pour terminer, je dirais qu'Haïti ne mourra pas. L'espoir est chez l'Haïtien. Nous sommes nés depuis 1804 avec ce leitmotiv que Haïti doit revivre.
Quelle est l'importance justement de sensibiliser la communauté internationale sur cette crise éducative en Haïti et comment cela peut-il aider à trouver des solutions durables hormis l'apport de la diaspora haïtienne?
Si vous permettez, je parlerai de la communauté internationale. Elle est très impliquée dans la situation en Haïti d'une manière ou d'une autre. La communauté internationale aujourd'hui doit faire son bilan, comme les gouvernements en Haïti doivent aussi faire leur bilan. Pourquoi cet échec? Pourquoi cette faillite généralisée? Donc s'il y a échec, s'il y a faillite généralisée, il y a quelque part des politiques publiques qui n'ont pas été mises en œuvre. Il y a une stratégie qui n'a pas été élaborée. Il y a bien sûr des problèmes qui n'ont pas été profondément adressés. Et donc ceci appelle la communauté internationale à mieux accompagner Haïti. Quand je dis mieux accompagner Haïti, ce n'est pas pour que les Haïtiens courent après l'aide internationale, mais qu'on puisse nous aider à développer ce pays à partir des potentialités que nous avons. C'est une industrie créole, c'est de l'art Haïti, c'est la culture, c'est l'économie maritime. Nous ne pouvons plus continuer à vivre le dos à la mer. Donc nous devrions trouver des amis, des partenaires viables et fiables qui sont intéressés à se mettre debout avec nous, de manière à pouvoir reconstruire ce pays, remoderniser ce pays. Et je dirais que la solution, c'est de nous mettre ensemble pour repenser Haïti autrement.
Vous dites vivre sur place en Haïti. Comment les élèves et les enseignants vivent-ils quotidiennement cette insécurité et quelles sont les répercussions psychologiques sur eux?
Je l'ai dit dans mon intervention, tout le personnel scolaire et les étudiants comme les parents ont vécu au moins 91% dans la région métropolitaine, ont vécu sous un traumatisme effarant et ils ont vécu avec des problèmes psychologiques énormes, sachant que chaque sortie dans la rue, c'est une occasion de se faire éliminer ou tuer. Et comment quelqu'un peut vivre tous les jours, sachant que demain je vais perdre ma vie, ou après quelques minutes je vais perdre mes parents ou mes sœurs et frères? Je pense que ceci doit cesser. Je salue ceux qui sont morts. Mais je dis aussi qu'on doit penser à l'être humain. Et comme je l'ai dit, manquer à ce devoir d'accompagner Haïti pour la sécurité, c'est déjà même aux Nations Unies de dire que c'est manqué. C'est un contrevenant aux droits humains. On doit pouvoir accompagner Haïti dans cette situation. Cette crise est terrible et les Haïtiens veulent vivre. Donc qu'on puisse nous accompagner pour que nous puissions vivre cette nouvelle vie et qu'Haïti puisse retrouver sa place dans le monde et apporter sa contribution au monde entier à la globalisation.
Sans revenir en arrière, puisque je vois effectivement que vous êtes porté sur l'avenir, vous avez été ministre du commerce et de l'industrie en Haïti en 2016. Comment vous avez vu cette recrudescence de la violence urbaine en Haïti depuis 2019 et qui a affecté justement ce système éducatif en particulier à Port-au-Prince?
Si vous permettez, c'était plutôt à la période 2014-2016. Et on a beaucoup travaillé au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, ce gouvernement, les gouvernements intérieurs. Je me suis associé avec d'autres ministres qui étaient là avant moi pour pouvoir faire ce travail. On a relancé le développement du secteur privé comme projet. On a accompagné les petites et moyennes entreprises. On a eu de grandes conférences. Et pour les petites et moyennes entreprises, on les a accompagnées même au niveau du financement, au niveau de l'élaboration de leurs projets. Et je dois dire que cette crise a effondré l'économie du pays complètement. Et les entreprises ont souffert. Et je dois dire qu'aujourd'hui, le constat, c'est le chômage. Et ce constat, c'est la perte de revenus et des familles. Et je dois dire aussi que c'est malheureusement un manque d'épargne nationale pour les Tahitiens. Donc, manque de financement. Et au niveau de la demande interne, c'est encore pire. Même les produits importés n'ont pas pu arriver à temps en Haïti. Donc pour moi, c'est une économie complètement effondrée. Et si on veut quoi pour l'éducation, il aurait fallu bien sûr qu'on puisse, et si on veut qu'il n'y ait pas de paralysie, que le système ne puisse pas souffrir d'une certaine paralysie, il aurait fallu qu'on puisse investir massivement dans l'éducation. Parce que investir dans l'éducation, c'est d'abord investir dans l'être humain, dans le capital humain. Et le capital humain, et sa partie dans la richesse totale d'un pays, est à peu près à 62%. Je veux dire aussi que l'éducation ou le système éducatif, c'est un vecteur de croissance. Et l'éducation en elle-même apporte aussi de la croissance économique à un pays. C'est un instrument de transformation économique d'un pays. Donc le ministère de l'Éducation nationale doit pouvoir jouer sa partition, contribuer au plan de relance économique du pays. Donc dans ce cas-là, je pense que la Banque mondiale, l'UNICEF et d'autres organisations internationales, et notamment les Nations Unies, le PNUD, et qui accompagne Haïti, se mettront ensemble, bien sûr, pour pouvoir aider à trouver du financement et à Haïti, pour pouvoir remettre ce système sur ses rails et atteindre cette efficacité. Mais je dois dire aussi que Haïti ne peut pas uniquement courir après l'aide internationale. Il faut absolument que l'État puisse redresser la finance publique. Et ceci, je crois que c'est en cours. Et sous le signe de l'austérité, de l'optimisation, il aurait fallu qu'on puisse avoir un bilan de ce qui s'est passé et des dégâts. Et ensuite faire un bilan aussi du besoin de financement pour l'éducation. Développer, élaborer une stratégie de financement. Aller chercher des sources diversifiées et au niveau de la diaspora avec les transferts. Et faire en sorte que la diaspora puisse s'investir aussi dans ce système éducatif et devenir des professeurs, posséder des écoles en Haïti et ramener en Haïti toute cette connaissance qui a été acquise à l'extérieur. Donc pour moi, il y a un espace, c'est un chantier, un nouveau chantier qui est ouvert. Et Haïti, comme je l'ai dit, ne peut pas mourir. Ce pays doit apporter sa contribution à la globalisation dans la mesure où nous vivons dans un espace caribéen qui est extraordinaire, qui a son marché et qui peut aussi apporter des revenus à l'espace caribéen et au monde entier. Nous sommes 11 millions d'habitants. Et nous avons le plus grand nombre d'habitants au niveau de la Caraïbe. Et percer le marché de la Caraïbe, c'est percer aussi d'autres marchés internationaux. Donc Haïti a sa place à jouer. Et je pense qu'il faut absolument que tous ceux qui aiment Haïti, qui souhaitent que cela change au niveau de la globalisation, au niveau de tous les pays. Haïti n'est pas le seul pays à connaître cette situation. Vous avez Hamas, vous avez un tas d'autres pays. Donc je pense que c'est le respect des droits humains que de se mettre ensemble dans ce monde actuel pour pouvoir nous entraider et faire en sorte que nous puissions servir l'humanité. Donc c'est mon point de vue.
Je vous remercie, Jessie Carmel Petitfrère. Vous êtes ancienne ministre du Commerce et de l'Industrie d'Haïti, également ceux des Haïtiens de l'étranger, de la diaspora, on pourrait dire, consultante pour plusieurs organisations internationales. Merci pour ces quelques instants de notre compagnie.
Je vous remercie de m'avoir accordé la parole aujourd'hui, d'avoir eu cette entrevue avec vous. C'est un plaisir de vous connaître. Et je dis aussi merci aux auditeurs. Et je leur dis de tenir ferme. En Haïti, nous avons un mot spécial pour dire Kembella. Cela veut dire garder la foi. Cela veut dire garder la confiance en soi. Cela veut dire garder la confiance que nous sommes chacun sur Terre un instrument et nous allons travailler ensemble pour faire avancer notre humanité. Et je dis excellente journée à tous. Et merci beaucoup.
Belle suite de journée à l'écoute de notre antenne Radio Cité Genève, 92.2 FM.